BW. Vue d'Allemagne.
Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
Depuis une heure, la nuit dernière, il creuse une tranchée dans la Ebertstrasse au pied de la porte de Brandenburg. Un reporter radio qui raconte la scène sous ses yeux à Berlin, c'était il y a 60 ans. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, la construction du mur de Berlin débutait. Pourquoi et comment on en parlait à l'époque ? On se plonge dans les livres d'histoire et les archives audio dans un instant. Et puis en seconde partie de ce magazine, direction le Portugal, où des chefs restaurateurs ont décidé de reprendre la production de garum comme les Romains il y a 15 siècles. Patrimoine et manière de lutter aussi contre le gaspillage avec le travail de poissons aujourd'hui considérés souvent comme non nobles et délaissés par les consommateurs. Reportage dans quelques minutes. Vous écoutez, Vue d'Allemagne, Guten Tag, Willkommen, je vous souhaite la bienvenue. On commence donc ce magazine cette semaine avec un bond dans le temps. Il y a 60 ans, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, c'est à cette date que débute à Berlin la construction du mur de la ville. Ce mur de 155 km de long qui séparera l'actuelle capitale allemande en deux pendant 28 ans entre 1961 et 1989. Un mur de béton et de barbelés séparant les populations et dont la construction fut une surprise, comme on l'entend encore sur cet enregistrement d'une radio allemande au matin du dimanche 13 août 1961.
Il est maintenant 5 heures.
Der Platz vor dem Brandenburger Tor.
Sur la place devant la porte de Brandebourg, on voit au premier regard une barrière qui bloque la Ebertstrasse et puis derrière, il y a un groupe de constructeurs. Apparemment, ils vont tenter de détruire une partie pour bloquer la route.
Wahrscheinlich um die Straße nicht mehr passierbar zu machen. Die
Tous les passages au niveau de la porte sont bloqués et protégés par des policiers. Et sur la place de Paris, on voit des camions avec des policiers et des soldats.
Am Pariser Platz einige LKWs mit Volkspolizisten oder sogar mit Soldaten der Volksarmee besetzt. Man sieht im ersten Licht des Sonnenscheins.
Alors comment on en est arrivé là ? Eh bien pour comprendre, il faut savoir que depuis 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, Berlin et l'Allemagne sont occupés, coupés en quatre zones, divisées entre les puissances considérées comme victorieuses de cette guerre. Une zone américaine, une zone française, une zone russe et une zone britannique. L'idée générale, c'est de contrôler le pays et d'éviter un retour du nazisme. Mais très vite, des tensions entre deux camps apparaissent, Est et Ouest. Américains et Soviétiques s'opposent diplomatiquement, chacun cherchant à augmenter son influence en Allemagne, mais aussi bien au-delà, en Europe et dans le monde. C'est tout cela qui conduira à la partition de l'Allemagne en deux en 1949. La République fédérale allemande, la RFA, à l'ouest, avec son système économique capitaliste, et la République démocratique allemande, la RDA, à l'est, et son système d'économie socialiste.
DW.
Alors Berlin, dans tout ça, eh bien Berlin est en zone soviétique dans l'est, mais la ville est comme une île coupée en deux aussi, avec une zone gérée par les Américains et leurs alliés, et une zone soviétique, comme une représentation de l'Allemagne tout entière, en taille réduite. Et tout cela, alors qu'à l'est et à l'ouest, les économies ne se relèvent pas de la même façon de la guerre et que la vie est organisée complètement différemment. Des millions de personnes prennent ainsi la fuite vers l'ouest, espérant y trouver des conditions de vie meilleures et plus de liberté qu'à l'est. Plus de 3 millions de personnes migrantes entre 1949 et 1961. Et Berlin, eh bien, est un point de passage privilégié parce que la circulation est libre entre les deux parties de la ville. On peut donc fuir vers l'ouest facilement. Dans les semaines qui précèdent la construction du mur, les passages s'accélèrent même. La rumeur enfle que les autorités communistes voudraient fermer cette frontière de Berlin. Mais ces rumeurs sont démenties par le président du Conseil d'État de RDA en personne, Walter Ubrich, qui répond à une journaliste en juin 1961. Et elle promit à parler d'un mur en utilisant le mot « mur », justement.
Je n'ai pas connaissance d'un tel projet, car les maçons de la capitale sont principalement occupés à construire des logements et ils y consacrent toute leur force de travail. Personne n'a l'intention de construire un mur.
Et pourtant, c'est bien ce qui se passe dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Ce dimanche matin, des soldats et policiers des frontières de RDA bloquent les rues et les voies ferrées entre ouest et est. Des ouvriers installent des barbelés. Toute circulation entre les deux parties de la ville est désormais interdite. C'est la surprise totale pour les habitants.
C'est une honte ce qui se passe là.
C'était clair, ils ne pouvaient pas se permettre ce qu'ils font de l'autre côté. Ça devait se passer. Mais alors, comme ça...
Ma mère et ma sœur sont là, de l'autre côté.
On installe des barbelés qui seront peu à peu pour beaucoup remplacés par des kilomètres de murs en béton. Des kilomètres de murs protégés par des soldats, des miradors, des alarmes en tout genre. Des portes sur des immeubles à cheval sur la frontière sont fermées, des appartements évacués parfois, des places coupées, les transports aussi. La RDA a son mur de protection contre l'Ouest, expliquera alors sans cesse la propagande soviétique, et Heinrich Honecker, le secrétaire du comité central pour les questions de sécurité en RDA.
Avec la construction du mur de protection antifasciste, nous avons stabilisé la situation politique en Europe. Nous avons consolidé la paix.
Un mur contre lequel les membres du bloc de l'Ouest ne pourront rien, malgré des protestations et des tensions dans les mois qui suivront parfois. Cela est préférable à une guerre, se résoudra même le président américain John F. Kennedy. Le mur reste donc en place pendant 28 ans, on le disait. Quelques 140 personnes sont mortes en tentant de le franchir. Il tombera finalement, ce mur, sous la pression en 1989, le 9 novembre. Une autre date importante dans l'histoire de l'Allemagne, à propos de laquelle vous pouvez d'ailleurs encore retrouver un numéro spécial de Vue d'Allemagne dans la médiathèque.
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin.
Sonderzug nach Pankow, train spécial pour Pankow, chanson du chanteur allemand Udo Lindenberg en 1983. Chanson adressée directement à Heinrich Honecker, à l'époque l'homme le plus puissant de la RDA. Udo Lindenberg, un rocker allemand, se moque de lui, le décrivant comme écoutant en secret la radio de l'Ouest et le rock, alors que les concerts d'Udo Lindenberg avaient été interdits à l'Est. Une provocation à laquelle réagira Heinrich Honecker, l'invitant à venir jouer au Palais de la République à Berlin-Est en 1983 sans cette chanson. Ce sera le seul concert en RDA, car Udo Lindenberg y a trop parlé politique, donné son avis. Les autorités de RDA ne lui autoriseront donc pas sa tournée prévue dans d'autres villes à l'Est. Vue d'Allemagne, deuxième partie, direction le Portugal. Alors qu'on parle beaucoup en ce moment de mesures pour protéger la planète, là-bas sur la péninsule de Tria, au sud de Lisbonne, à l'embouchure du fleuve Sado, des chefs cuisiniers ont décidé de revenir à une cuisine romaine en faisant du garum, un jus à base de saumure de poisson, un réhausseur de goût qu'ils vendaient à l'époque les Romains dans tout leur empire, il y a donc plus de 15 siècles. Alors revenir aujourd'hui à la production de ce garum, c'est une manière de protéger le patrimoine, de le faire revivre et d'utiliser aussi des poissons considérés comme non nobles alors que les ressources de pêche s'épuisent. Expérience en situation sur un site de ruines romaines. Ouvrez vos oreilles et votre nez. Marilyn Darcy nous emmène sur place.
L'activité qui règne aux abords des ruines romaines de Troia n'est pas habituelle. Des dizaines de caisses remplies de sardines y sont transportées par une cohorte de jeunes gens.
On transporte des sardines pour faire le garum. Là, j'ai 5 caisses, mais il y en a beaucoup. Au lieu d'aller au gymnase, on vient faire du garum.
Le garum, la sauce de poisson des Romains, est remise au goût du jour, sous l'impulsion du restaurant lisboète Cannes de Cannes, de son propriétaire Victor Vicente et de son chef Pedro Almeida. Cela fait déjà des mois qu'ils élaborent d'autres manières d'accommoder le poisson, tout en diversifiant les ressources. Leur projet, celle au Dobar, les a conduits à tenter la production de garum en cuisine. L'expérience dans une cuve d'époque n'a encore jamais été tentée. La recette s'inspire de celle donnée par le Romain Apicius dans son traité de cuisine. La première étape consiste à débiter des kilos de sardines. Victor Vicente, restaurateur.
O peixe para facilitar principalmente
Le secret est dans les viscères. Il faut couper le poisson, surtout pour que les viscères puissent être en contact avec la saumure. Dans les organismes comme le nôtre, il y a plein de micro-organismes qui divisent et cassent les protéines. Ça se trouve principalement dans les intestins et l'estomac. C'est là qu'on trouve ces enzymes.
Que ces enzymes existent.
Ça va se défaire au cours des mois. Ensuite, on filtre au moyen de tissu pour séparer le liquide de la matière. C'est un liquide hautement protéique et riche en glutamate de sodium. Cela sert d'intensificateur de goût.
Il faut également diluer du sel dans de l'eau minérale. Pas question de prendre le risque d'introduire des bactéries avec de l'eau de mer polluée. Une entorse à la recette antique. Ensuite, le chef Pedro Almeida surveille la recette.
Je remplis la cuve d'eau salée et on va procéder par couches successives de l'eau des poissons et ainsi de suite, car ça facilitera le mélange. Ce sont des grandes quantités. 320 litres d'eau, 129 kg de sel et 400 kg de sardines. Il en restera un peu, mais on ne va pas faire qu'une seule cuve.
Le sac alimentaire dans lequel se fait le mélange est une entorse à la recette ancienne. Mais le plus important, c'est la chaleur constante que vont donner les parois de la cuve pour réussir la macération. Les Romains, eux, disposaient d'une véritable usine. Patricia Bron, archéologue du site de Troia.
Qui en Troia, nous identifions 29 officines de soja.
Ici à Troia, on a identifié 29 officines de salaison. Il y en avait de différentes catégories et elles s'étalaient au long de 2 km. La nôtre est la plus grande, rectangulaire avec des cuves tout autour. Et les gens peuvent observer maintenant comment on fait le garum 1500 ans après. On pense que 1500 personnes travaillaient ici. Ce n'est pas le seul complexe existant, mais avec cette dimension et cette production de masse, nous pensons que c'était le plus important de tout l'Empire romain.
La production de garum à l'ancienne intéresse aussi au plus haut point les scientifiques de l'Institut d'agronomie qui travaillent sur l'alimentation du futur, la biologiste Marisa Santos.
On attend les financements pour faire toutes les recherches sur le garum, faire des tests sur des échantillons pour analyser la microbiologie, les micro-organismes impliqués dans le processus, mais aussi en termes de valeur nutritionnelle et sur les propriétés physiques, la texture, comment on reçoit les aliments, si on aime ou pas, ce que l'on aime plus ou moins et pourquoi. En somme, toutes les analyses sensorielles associées au goût.
Il faudra attendre l'automne pour savoir si l'opération Garum à Troia a réussi. Pour le restaurant Kenzokan, la démarche s'inscrit pleinement dans les recherches menées sur les nouvelles manières de consommer le poisson pour un développement durable et la protection des espèces.
Marilyn Darcy pour ce reportage au Portugal. Et c'est avec cela que se termine Vue d'Allemagne pour cette semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous renvoie, comme toujours, à la médiathèque pour tous les anciens numéros et pour le podcast de celui-ci, si vous voulez le partager. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, alles Gute, portez-vous bien et bis bald. À très bientôt. Tschüss.